politologue spécialiste de la Chine et de l'Asie en particulier, chroniqueur également au Journal de Montréal, Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour Bernard.
D'abord, tu voulais rajouter quelques réflexions sur le G7.
Je t'ai entendu à midi avec Frédéric Mayron et j'ai entendu les auditeurs, puis je me suis dit, il y avait beaucoup de bonnes réflexions, mais je vais juste rajouter, il ne faut pas trop s'énerver avec ça. Hein. Il s'agit de commerce, d'une petite partie du commerce. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent dans notre relation avec les États-Unis, le militaire, toutes les valeurs, les droits de la personne, le fait que on est des pays démocratiques aussi. Et surtout, il faut rappeler que Trump travaille pour les élections de mi-mandat.
Oui, novembre. Oui.
Et donc, on verra comment ça sera après ça. Il va y avoir aussi un après-Trump. Je pense qu'il ne faut pas confondre la personnalité de Trump et autre chose. Mais à long terme, et c'est ça qui est important, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on voit vraiment les alliés des États-Unis se dire « Oui, mais si les États-Unis ne nous lâchent pas aujourd'hui, est-ce qu'ils vont nous lâcher demain ou après-demain ?» Et donc, ça, c'est en train de réaligner à long terme les jeux d'alliance au niveau international, d'autant plus que, je ne sais pas si tu as vu passer cette nouvelle aujourd'hui, mais la compagnie chinoise, tu te souviens, ZTE, qui avait fraudé aux États-Unis, qui avait envoyé des composantes américaines en Iran, etc., les Américains étaient furieux, eh bien, c'est réglé avec eux. Ils vont devoir payer une amende $1 milliard, mais c'est réglé. Et on a donc l'impression que, vraiment, Trump fait passer le commerce avec la Chine avant le commerce avec les pays alliés. Et ça pose un problème particulier.
Mais en même temps, il est dur à suivre sur la Chine.
Il est dur à suivre
partout. Parce qu'il en serait venu donc à une entente avec cette compagnie ou concernant cette compagnie, ZTE. Mais les négociations avec la Chine pour essayer d'équilibrer le commerce puis diminuer le déficit commercial que les États-Unis ont avec la Chine, c'est pas réglé, ça.
C'est loin d'être réglé.
C'est pas réglé.
Il va peut-être le diminuer, mais il va être loin de le régler.
C'est quoi, 500 milliards de déficit
commercial?
Non,
c'est quand même 375 milliards, mais c'est énorme. Et ça augmente année après année. Alors, c'est déjà, s'il réussit à le freiner, ça va être beau, mais il faut jamais oublier, c'est pas une économie de marché, la Chine. C'est le Parti communiste qui décide ce qui rentre et ce qui sort.
D'accord. Tu as raison de nous le rappeler.
Malheureusement, Trump ne semble pas comprendre cette vérité-là. Alors, bon, on verra. Mais donc, c'est ça. On va suivre ça demain. Ça va être vraiment intéressant.
En même temps, quand tu dis faisons attention, il n'y a pas juste les exportations. Rappelle-toi là, quand même, Loïc, que les exportations, c'est une part grandissante de notre PIB et donc une part grandissante des emplois des gens qui nous écoutent.
D'autant plus qu'avec le libre-échange, tu sais, ça prend du temps avant d'arriver à... que des pays, si tu veux, s'installent dans un libre-échange, ça prend des dizaines d'années. Et entre le Canada et les États-Unis, on commence enfin à vraiment voir les bénéfices du libre-échange parce qu'il y a eu beaucoup de fermetures, il y a eu beaucoup d'instabilité économique. Ça prend littéralement des dizaines d'années. On est en train d'y arriver, on est en train de retrouver un équilibre commercial entre les États-Unis et le Canada.
Et là, il est en train de tout foutre en l'air.
Exactement.
OK. On change de continent. On s'en va maintenant en Irlande du Nord. Pourquoi en Irlande du Nord?
Parce que la Cour suprême britannique vient de refuser de trancher dans un cas très litigieux. On se souvient que l'Irlande du Nord, ça fait partie de la Grande-Bretagne. Et figure-toi que la Commission des droits de l'homme d'Irlande du Nord avait demandé à la Cour si l'interdiction qui existe en Irlande du Nord de l'avortement en cas de viol, d'inceste ou de malformation était légal, était constitutionnel. Il faut se souvenir que l'avortement est interdit en Irlande, sauf si la vie de la mère est en danger. Et les femmes qui se font avorter, ainsi que les médecins, sont passibles d'emprisonnement à vie.
Mais ça va se régler avec le résultat du référendum.
Pas nécessairement.
Ben oui. Le résultat du référendum dans la République d'Irlande.
Je te parle de l'Irlande du Nord.
L'Irlande du Nord, il n'y a pas eu de référendum sur l'avortement. Non, absolument pas.
Et le problème, c'est que on se disait, la Cour suprême, dites-nous, ça ne marche pas. Parce qu'en Grande-Bretagne, donc dans le reste, c'est autorisé depuis 1967.
Attends un peu, là, je veux juste être bien sûr, parce que ce n'est pas simple. En Grande-Bretagne, l'avortement est autorisé depuis 67, mais il n'était pas autorisé en Irlande du Nord.
Non,
comme dans
pas.
Le reste de la République d'Irlande.
Exactement.
Ah, OK.
Parce que c'est des gens qui sont protestants, mais très, très fondamentalistes, je pense qu'on peut dire ça là-dessus.
Très pratiquants.
Très pratiquants. Et qu'est-ce que la Cour a dit? Elle a dit, écoutez, nous ne sommes pas compétents pour juger de cette loi en général. Ça revient aux élus. C'est aux élus de juger de ça. Parce que c'est pas un cas particulier. On peut pas vous donner d'opinion là-dessus. Et elle a quand même dit, il faudrait reconsidérer la loi de manière générale en Irlande du Nord. Sauf que, il y a un problème pour Elizabeth May. C'est que son parti est minoritaire en ce moment. Et devine par qui il est soutenu? Par le DPU.
Les protestants, justement, le parti protestant.
Qui sont farouchement opposés à l'avortement. Alors, elle est vraiment... Elle est prise entre l'arbre et l'écorce. On ne sait pas ce qu'elle va faire avec ça. Je pense qu'elle va tenter de remettre ça au calendrier grec parce qu'elle doit faire passer toute la question du Brexit. Et évidemment, cette question du Brexit est prioritaire par rapport à l'avortement en Irlande du Nord.
Bon, alors, parlons un petit peu de l'Afghanistan. L'Afghanistan, écoute, là, il ne faut jamais oublier qu'on a quand même... payer un très fort sacrifice, humain. On a beaucoup de nos soldats qui sont décédés là-bas.
C'est vrai.
Sans parler du coût financier. Puis je parle du Canada, mais évidemment, les Américains pourraient nous en dire beaucoup plus là-dessus. C'est un pays dont la démocratie reste fragile. Les talibans sont toujours présents. C'est... Et là, ils y vivent des difficultés encore plus grandes. Là.
Oui, c'est en raison, entre autres, des changements climatiques. Figure-toi qu'il n'y a pas eu assez de pluie ou de neige l'hiver dernier. Et donc, 30 % des puits sont à sec dans 10 provinces. Il y a plusieurs ruisseaux et rivières qui sont à sec. Il y a déjà des dizaines de milliers de personnes qui ont été déplacées à cause de la sécheresse, parce que plus rien pousse. Et ça pose de très graves problèmes pour les récoltes, à tel point qu'on pense que d'ici 6 mois, il y a des millions de personnes qui pourraient être touchées par la famine en Afghanistan. Et c'est la même chose, remarque, dans la région. Hein. En Iran aussi, il y a des graves problèmes. En Iran, on a des manifestations de paysans à cause de la sécheresse. Par exemple, il y a un lac, je regardais ça sur Radio France Internationale, le lac d'Urmia, qui est en train de disparaître complètement. C'est le plus grand lac d'Iran.
Plus grand lac d'Iran est en train de disparaître.
Exactement.
Faute de pluie?
Faute de pluie, oui, mais aussi parce qu'on a gaspillé l'eau, parce qu'on a mal géré les affluents du lac.
Oui.
Donc, c'est en train de disparaître. Mais
et c'est une source de potable? On peut présumer que c'est une source de potable.
Mais tu sais, de la Méditerranée jusqu'à l'Himalaya, il y a un problème d'eau dans cette région-là. Et c'est un problème dont personne ne parle, mais c'est pourtant un problème qui exacerbe toutes les tensions politiques dans la région. C'est le problème le plus grave de la région. Et remarque bien la politique d'Israël. Pourquoi est-ce qu'Israël tient aux hauteurs du Golan? Parce qu'il y a de l'eau dans les hauteurs du Golan.
Le lac de Tibériade. Le lac de Tibériade.
Exactement.
J'y suis allé, moi.
C'est là que l'eau est. Alors, ils veulent contrôler l'eau. Et le contrôle de l'eau, donc, est en train de devenir un enjeu politique majeur. On le voit sous nos yeux. Depuis des années, en fait, mais ce genre de sécheresse aggrave ce problème-là, bien entendu.
Oui, non, absolument. Absolument. Et ça va susciter également d'autres mouvements migratoires. Tu sais, quand on dit la question des migrants, c'est une question qui non seulement va rester avec nous pour les années à venir, mais qui va s'exacerber. Bien, ce genre de problème d'approvisionnement en eau potable, à partir du moment où tu n'as plus d'eau potable dans une région, éventuellement, les populations se déplacent.
Absolument.
Bien certain. Loïc Tassé, merci.
C'est un plaisir. À demain.
Absolument. À demain. Et savez-vous quoi? Le thème de la journée, là, c'est le G7. On s'entend. Hein? On peut pas passer à côté. Et là, on était curieux. Parce que lors de cette discussion entre Trudeau et Trump, Trump a dit « C'est pas vous là qui êtes venu à un moment donné, en 1812, brûler notre Maison-Blanche? » Alors là, on s'est dit « Tiens, garde bien là. Tu veux parler de 1812? On va en parler, nous autres, de 1812 à l'émission. Et donc, après la pause, on va vous dire ce qui s'est vraiment passé en 1812. Qui l'a brûlé, la Maison-Blanche? Puis comment ça s'est fait? Vous allez tout savoir. Tu veux en parler, mon Donald? Tu vas voir. Nous autres, ici, on est capable d'en parler dans un instant.